Bonjour à vous tous, bienvenue. Aujourd'hui, on essaye de se mettre à la dégustation d'insectes dans le Nord. Ensuite, on fabrique une cabane et enfin, on se fait peur avec une rando nocturne en raquette en Haute-Savoie. C'est très régressif comme programme. Mais commençons par l'actu de ce mardi 19 mars. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Tournier, bonjour à tous.
On va voir ce midi comment se présente le prochain samedi des Gilets jaunes.
Après les couacs police-gouvernement de samedi dernier et les mesures nouvelles annoncées, tout va changer Nicolas Ballu.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mesures annoncées hier et le problème c'est que maintenant il va falloir les assumer pour le gouvernement.
On va remonter à l'origine du mouvement, il y a quelques mois après la rencontre entre le président et les intellectuels hier soir.
Oui, avec le sociologue Jean Viard qui faisait partie des invités à l'Élysée.
On va passer dans un village qui devait voter dimanche prochain et qui ne votera pas.
Faute de candidats, ce n'est pas fréquent mais ça arrive, il faut dire que se faire élire en ce moment n'est peut-être pas de tout repos.
Voilà une profession qui cherche des bras, conducteur de poids lourds.
On estime que les transports cherchent actuellement 13 000 candidats, des hommes et des femmes, pour conduire des bus ou des poids lourds de marchandises.
Quelles sont les personnalités préférées des enfants, disons les 7-14 ans? Le journal de Mickey sort son baromètre annuel.
Alors on vous laisse imaginer quelques minutes, juste un indice, les Bleus du foot jouent contre la Moldavie et l'Islande dans quelques jours.
Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Édouard Philippe l'a dit hier soir, Christophe Castaner l'a redit ce matin, la police a pris des initiatives samedi sur les Champs-Élysées sans l'aval du gouvernement.
Ça fait désordre par les temps qui courent, d'où la démission forcée du préfet de police et de quelques autres responsables et de nouvelles mesures pour contrer la violence. Le ministre de l'Intérieur, ce matin sur France Inter, le constat de samedi. Et comment il voit samedi prochain?
Ce que nous avons vu sur les Champs-Élysées, ça n'est pas une manifestation, c'est une scène d'émeute. Une émeute urbaine, avec des gens qui viennent pour casser, pour détruire, pour piller, pour voler, pour incendier. Des gens sont venus de l'étranger pour venir casser et rejoindre les Black Blocs. Donc il faut effectivement que nos forces de sécurité aient les moyens, qui consistent à intervenir de façon la plus systématique, la plus rapide, à neutraliser, à interpeller et à placer sous contrôle judiciaire ceux qui commettent ces faits. Je pense que samedi prochain, nous serons dans une efficacité liée à cette consigne que le ministère avait donnée pour le 8 décembre et qui n'a pas été appliquée, qui implique effectivement des moyens d'action qui sont beaucoup plus puissants.
Et on saura dans quelques jours si c'est la bonne réponse face aux casseurs.
Un nouveau préfet, une interdiction de manifester dans certains quartiers à Paris, Bordeaux, Toulouse, une hausse des contraventions pour participation à une manif interdite, une réorganisation des forces de police, ça va marcher cette fois Nicolas Ballu?
C'est la question à 1000 euros. La vraie question aussi, c'est le gouvernement peut-il faire autrement? D'un point de vue sécuritaire et strictement sécuritaire, non. L'exécutif veut désinhiber les forces de l'ordre, je cite. Alors le souci, c'est qu'il faut assumer ce qui peut se produire derrière, c'est-à-dire des morts. D'ailleurs, l'exécutif dit assumer cette éventualité, mais il ne prononce pas le mot, donc on peut penser qu'il l'assume encore à demi.
Oui, c'est aussi un risque politique.
À quel moment, oui, les Français vont-ils se désolidariser des gilets jaunes radicaux? Si des scènes pareilles se répètent, comme celle de samedi, c'est catastrophique pour Emmanuel Macron. Si l'ordre rétabli mais qu'il y a des morts, rien ne dit aujourd'hui que les Français seront derrière le chef de l'État. Emmanuel Macron, lui, ne veut pas rater sa sortie politique sur le grand débat.
Cet après-midi, ça va tanguer à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement?
Ah oui, alors c'est vrai que les fusibles ont sauté, mais derrière, évidemment, ce sont Christophe Castaner et Édouard Philippe qui sont particulièrement contestés pour leur gestion de la crise. Et le ministre de l'Intérieur doit également passer devant les sénateurs cet après-midi.
Merci Nicolas Ballu.
Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont en première ligne pour essayer de faire régner l'ordre. Et pendant ce temps, le président poursuit le débat.
Après le grand débat national, les rencontres citoyennes, Emmanuel Macron a passé la soirée avec des intellectuels. Ce n'était pas de tout repos. On écoute un extrait quand le sociologue Jean Viard résume en quelques instants l'origine du mouvement des Gilets jaunes, avec notamment tous ceux qui ont quitté les villes au cours des dernières décennies. On les a oubliés, dit Jean Viard.
Ces gens, ils avaient réussi leur vie. Ils étaient des fils de prolo, moi je dis réussis. Ils étaient contents, ils étaient bien actifs, ils avaient deux diesels, ils avaient la maison Phoenix, ils avaient une vie réussie, ils avaient appris le travail à leurs enfants. C'est la France du travail du corps, pas du pouce, hein. C'est pas la petite poussette, c'est le corps. Et ces gens-là, d'un coup, on leur dit que vous êtes nuls, faut circuler en vélo, faut être écolo. Et excusez-moi, monsieur le Président, vous savez que je vous aime bien, mais enfin, vous avez mis du sel dans la plaie, les 80 km/h, le diesel, c'est-à-dire là où il y a un pays qui est en train de se couper en deux, vous avez mis tous les éléments pour faire crier partout. Et cette rupture, c'est la même que celle qu'il y a avec le Brexit. Londres n'était pas pour. C'est la même qu'il y a aux États-Unis. Trump n'a pas eu de grande ville, etc. On pourrait généraliser. Barcelone n'a pas voté pour le Brexit. Partout, il y a ce conflit entre ces grandes métropoles et autour. Et la question, c'est qu'il faut donc avoir une politique pour ce territoire. Or, il n'y en a pas. On leur dit ressembler à la métropole, mais les pauvres choux, ils ne peuvent pas. Ils habitent dans des maisons isolées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire comment on construit, j'allais dire, la métropole rurale, c'est-à-dire un mode de vie pour ces territoires. Leur mode de vie, il est périmé. Mais c'est là qu'ils ont investi leur vie. Et donc, effectivement, ils ont la haine. On les voit circuler sur les champs. Quand on regardait samedi, moi j'étais... D'un côté, il y avait des mecs qui circulaient tout seuls, ils parlaient à personne. Et de l'autre côté, vous avez les manifs écolos. C'était sympa, les gens rigolaient, etc. Il y avait une communauté d'un côté, et de l'autre côté, des individus désespérés.
Inventer la métropole rurale.
Le sociologue Jean Viard, hier soir, avec les intellectuels invités à l'Élysée. On reste à la campagne, dans ces petits villages qui ne trouvent même plus de candidats pour une élection municipale.
C'est le cas à Métamis, un village du Vaucluse de 400 habitants, à 20 km du Mont Ventoux. On devait voter dimanche pour une élection partielle. Suite à 3 démissions, personne ne s'est présenté, Philippe Popper.
Élection annulée, c'est affiché partout à Métamis, ça embête un peu Mélanie.
On n'est pas malade non plus, hein, mais bon, je trouve ça dommage dans un petit village, 400 habitants. Après, moi c'est vrai que je dis ça, mais bon, moi personnellement ça ne m'intéresse pas non plus. J'ai pas le temps, je travaille.
Justement, dans un petit village, tout le monde sait qui est candidat ou qui ne l'est pas. Certains se taisent parce que leur mari a été élu, d'autres glissent que le maire a fait son temps. Au café, Marco Paoli analyse la situation politique depuis son comptoir.
Peut-être que les gens ne veulent pas s'investir avec la municipalité qui est en cours et qu'ils préfèrent se réserver pour faire campagne dans un an. D'ici là, ça me semble un peu compromis, quoi.
Donc pas d'élection dimanche, et s'il n'y a pas de candidat pour le deuxième tour, le conseil municipal continuera de délibérer sans les 4 élus démissionnaires. À moins d'un an des municipales de 2020, il faudrait la démission de la moitié du conseil pour justifier l'intervention de la sous-préfecture.
Philippe Popper, dans un village du Vaucluse, qui ne votera pas dimanche pour cette élection partielle, faute de candidat.
On a encore en tête cette enquête où un maire sur deux pense ne pas se représenter l'année prochaine pour des raisons personnelles, mais aussi à cause du désengagement de l'État.
Prenons les gares qui ont tendance à réduire leurs horaires d'ouverture, voire à fermer leurs portes.
La SNCF essaie de boucher les trous. On se rappelle de La Poste, appelée à la rescousse avec ses facteurs pour vérifier que tout va bien en gare quand il n'y a plus de personnel des chemins de fer.
Voici une gare mobile expérimentée dans quelques régions. Des gares ambulantes qui passent une demi-journée par semaine.
On teste à La Flèche, dans la Sarthe, avec vous, Raphaël Ebenstein.
Bonjour messieurs, vous pouvez 2 billets.
Audrey accueille les visiteurs derrière une sorte de comptoir, protégé de l'extérieur par une porte vitrée. Il y a aussi 2 petits bancs pour s'asseoir, des fiches horaires de TER sur un présentoir, tout l'attirail pour imprimer des billets. Cette ancienne vendeuse d'une boutique SNCF de centre-ville arpente depuis plus de 2 ans une partie de la Sarthe et de la Mayenne au volant d'un petit camion surélevé sans craindre de conduire un tel engin.
J'ai une caméra de recul, j'ai des doubles rétroviseurs, c'est pas très contraignant au final.
Les clients défilent sagement, majorité des femmes, retraitées qui ont des difficultés avec le numérique, à l'image de Françoise.
Je prends pas souvent le train, mais quand je le prends, je viens prendre mes billets ici. Moi je fais partie d'une génération où achat sur internet et tout, c'est pas pour moi.
Certains regrettent quand même une présence trop limitée, une demi-journée par semaine, dans une ville qui avait auparavant une gare aujourd'hui désaffectée et une boutique SNCF fermée en 2013. Loïc, venu avec son épouse acheter des billets, se montre donc un peu mitigé.
C'est le service de proximité qui est un avantage.
Pas forcément parce que c'est au marché. Il y aurait eu une boutique fixe sur La Flèche, on aurait été là.
Mais à 12h30, comme chaque mercredi, c'est l'heure du départ pour Audrey. Demain, elle stationnera toute la matinée à Château-Gontier, en Mayenne, à 60 km de là.
Raphaël Ebenstein, les gares ambulantes, comme il existe des camions service public qui vont de village en village, on avait testé dans Une Heure en France, mais tout le monde n'est pas desservi.
3 jours après les violences sur les Champs-Élysées et la manifestation massive et calme pour le climat, des syndicats sont dans la rue ce mardi.
La CGT, FO, Solidaire, la FSU et des organisations étudiantes et lycéennes veulent faire entendre leur voix sur le pouvoir d'achat ou contre la réforme de l'école. Un mouvement soutenu par 7 Français sur 10 selon le baromètre des services publics Odoxa. On vient de recevoir les chiffres de participation pour l'école. 24% de grévistes à l'école primaire, 9% dans le secondaire. Ce sont les chiffres du ministère, en attendant ceux des syndicats.
13h10 sur France Bleu, la suite d'Une Heure en France avec l'équipe de France de football qui revient sur les terrains pour l'Euro 2020 et les joueurs préférés des 7-14 ans. Mais avant, on veut vous parler d'un secteur qui recrute, celui des transports. Des postes de chauffeurs ne trouvent pas preneurs. La profession cherche 13 000 candidats, des hommes comme des femmes.
Oui, des femmes. Il faut dire qu'il y a encore des préjugés du style conduire un bus ou un poids lourd, c'est pour les hommes. Un bus sillonne actuellement la France pour dire que les choses ont changé. Il a fait escale sur le parking de Vitalis. C'est le réseau des transports en commun à Poitiers, Jules Brézaz.
Qui n'a pas en tête cette image du camionneur en Marcel, tatoué des biceps et qui parle comme chante Renault ?
Je suis un drôle de camionneur.
Ajoutez à cela la cabine du camion tapissée de photos de pin-up dénudées et vous avez le stéréotype, dit Jean-Claude, ancien chauffeur de marchandises.
C'était un métier d'homme, hein. Il fallait avoir des bras, c'est moins macho qu'à l'époque.
Aujourd'hui, Jean-Claude conduit des bus chez Vitalis et parmi ses collègues, de plus en plus de femmes comme Vanessa, une ancienne de la RATP qui en a entendu de toutes les couleurs.
Quand t'es une femme et que tu dis « je suis conducteur de bus », « oh bah dis donc, comment t'arrives à conduire ce truc-là » Oui, d'une manière, les bonnes femmes, elles savent pas conduire.
Heureusement que les temps changent, dit Rohan, conducteur de bus à Poitiers depuis 14 ans.
14 ans, comme vous dites. Hein. Dans le temps, c'est vrai que les bus et les camions étaient très durs à conduire parce qu'ils n'avaient pas la direction assistée. Aujourd'hui, c'est plus une question de force, parce qu'il n'y a pas de souci.
Un petit souci quand même pour Frédéric Bissoulet, délégué commercial du groupe Clésia, qui assure les retraites notamment de transporteurs, la vieille image du camionneur qui colle encore à la peau du métier.
Exactement. Voilà. Avec son Marcel, ses gros muscles. Dans les faits, il manque entre 10 et 13 000 postes, des entreprises qui cherchent des conducteurs, aussi bien d'ailleurs en transport de marchandises qu'en transport de voyageurs. C'est une question d'image.
Une image qui se dépoussière, exemple chez Vitalis, qui compte un quart de conductrices et qui recrute actuellement.
Jules Brézaz à France Bleu Poitou, je vous ai vu sourire, Frédéric, c'est devant les préjugés.
Ça aussi, ouais.
Avec les conducteurs et conductrices recherchés dans la profession.
On savait que le Tour de France allait débuter son édition 2020 à Nice. On sait désormais qu'il va rester 2 jours sur la Côte d'Azur.
Et ça va démarrer très fort avec le col de Turini au programme en tout début de tour. Ça, c'est assez inhabituel.
Et on va bientôt, dans une heure en France, aller à Nice pour découvrir le tout nouveau musée du maillot jaune.
Le maillot jaune est moins ancien que le Tour de France, il fête ses 100 ans.
Il avait dit qu'il y avait peu de chances de le revoir dans les bassins, et bien il a changé d'avis. Florent Manaudou plonge à nouveau dans le grand bain.
C'est bien connu, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'idée. À 28 ans, le champion olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux de Londres en 2012 annonce son retour à la compétition après 3 ans consacrés à ses autres passions, le handball et le cinéma. Il vise les Jeux de Tokyo en 2020 et surtout Paris en 2024.
Les Bleus, champions du monde de football, sont de retour à Clairefontaine. Ils se préparent à rencontrer la Moldavie vendredi et l'Islande lundi prochain à Paris en éliminatoire de l'Euro 2020.
On ne sait pas si les Bleus lisent le journal de Mickey ou si quelqu'un va dire à Kylian Mbappé qu'il est la personnalité préférée des 7-14 ans selon le sondage annuel de Mickey. Moi champion, Kylian Mbappé, l'euro vive quand Kylian Mbappé, toi tu aimes bien qui Kylian Mbappé.
C'est varié. Kylian Mbappé, la personnalité préférée donc des 7 à 14 ans, devant un autre bleu, c'est N'Golo Kanté.
Vous vous rappelez de l'équipe de France qui avait fait chanter le Jardin de l'Élysée après le titre en Russie ? C'est Paul Pogba au micro et c'est plus classique, c'est sur un air de Joe Dassin.
N'Golo Kanté, pa la 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 la. N'Golo Kanté, pa la 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 la. Il est petit, il est gentil, il a sauvé Léo Messi. Mais on s'est poussé un tricheur, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, pa la la la. N'Golo Kanté, pa la la la. Il est parti, il est parti, il a sauvé Léo Messi. Mais on s'est poussé un tricheur, N'Golo Kanté.
Ça rappelle des souvenirs, des bons souvenirs,
ah,
non ?
Des beaux souvenirs, en effet. Et c'est Soprano qui prend la 3e place de ce classement des enfants sondé par le journal de Mickey.
Et Big Flo et Oli sont éjectés du podium. Oh. Ils ont bien chanté. Ils ont très bien chanté, mais ils ne sont pas champions du monde.
Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois.
Et de Toulouse chez Big Flo et Oli, on va aller à Cambrai manger des insectes et se faire peur en randonnée en Haute-Savoie.
Et on va faire des cabanes, Frédéric, comme quand on était petit.
Oui, enfin vous.
D'abord, la météo.
Francebleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur Francebleu.fr.